Nous avons le devoir d'aller de l'avant, de déplacer les blocages, nos vieux réflexes, pour consolider la reprise de la croissance et pour amener notre pays vers demain. C'est cette exigence qui m'amène en conscience, dans l'intérêt supérieur des Français, à engager la responsabilité de mon gouvernement.
Bonjour Olivier Besancenot. Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Vous êtes le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Ma première question, elle peut paraître bizarre quand on s'adresse à vous, c'est comment on sort de cette impasse qui est la nôtre en ce moment?
En retirant le projet de loi.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre.
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Le cinéma, pour moi, est de l'art. La télévision, c'est de la culture. La culture n'a rien à voir avec l'art.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme le mois dernier, et probablement comme les suivants, nous allons prendre le temps de parler de cinéma. Du cinéma et encore du cinéma, ai-je entendu. Conscient que du cinéma, on en produit beaucoup, qu'on le commente certainement trop, et que l'on s'en perd dans tous ces cinémas. Assommé par les images de la télévision, parfois celles du cinéma, asservi par celui de nos téléphones ou de nos ordinateurs, on ne fait plus trop la différence entre l'image réelle, l'image détournée et celle du cinéma, justement. Toutes les images chevalent, se confrontent et s'entassent en désordre dans un coin de notre tête. Alors pour s'interroger et essayer de comprendre ces images, c'est de marge et de cinéma dont nous allons discuter. Nous le ferons autour de l'image documentaire et plus précisément de celui en charge de fabriquer cette image. Du poste, d'une position comme disent certains, ou simplement du métier mais qu'on en a bien du mal à définir, et que même ceux qui le pratiquent ont tant de difficultés à nous l'expliquer et à nous le rendre accessible. Nos seules certitudes sur le métier de documentariste, c'est qu'il se décline, en radio, au cinéma et à l'écrit aussi. L'autre certitude, c'est que le métier change, avec la mutation technologique, la réduction du temps de préparation, de tournage, de montage, et l'implication presque obligatoire des réalisateurs dans la production de leurs propres films font que le métier s'individualise de plus en plus dans sa pratique comme dans sa reconnaissance sociale qui tend à le ghettoiser. Nous avons donc décidé de nous arrêter sur les documentaristes de cinéma et de les inviter à venir nous parler de leur démarche. Pour être tout à fait honnête, c'est aussi parce que nous sommes un peu inquiets sur ce métier qui réclame la patience et le temps dans un monde qui n'en a plus vraiment. Être le témoin de la vie qui avance, du temps qui s'écoule, voilà la mission du documentariste. Mais c'est surtout parce qu'ils sont ces témoins précieux de notre monde, qu'ils captent et nous racontent, qu'il nous est apparu nécessaire, presque indispensable, d'inviter ces cinéastes à venir nous raconter leur réel pour comprendre peut-être comment ils racontent le nôtre. Pas journaliste, cinéaste, réalisateur, mais surtout observateur, on n'a jamais su vraiment définir ce métier de documentariste. Peut-être parce que le documentaire lui-même n'a pas définition ni limite. Profession documentariste reste sur les routes de France en accueillant la cinéaste Alice Diop, qui possède un parcours atypique dans le milieu documentaire dont la richesse tient à la diversité de ses réalisateurs. Alice Diop revendique l'activité de cinéaste comme une envie à donner la parole à ceux qu'on ne voit que très peu et qu'on n'entend jamais, et qui peuvent même être parfois stigmatisés. Sa trajectoire de cinéaste, tombée dans le documentaire grâce à un joyeux hasard, comme elle dit, va nous permettre d'analyser comment le cinéma français raconte et dessine la marge. Alice Diop, bonjour.
Bonjour.
Née à Aulnay-sous-Bois en 1979, vous grandissez jusqu'à l'âge de 10 ans dans la cité des 3000 en banlieue parisienne. Vous vous lancez initialement dans les études d'histoire, puis vous vous inscrivez à la fac d'Evry en DESS de sociologie visuelle, ce qui va profondément nourrir votre vision de réalisatrice. Vous tombez ensuite dans le documentaire à travers une rencontre avec un documentaire d'Eliane Latour, rencontre qui vous fera réaliser la force des messages pouvant être véhiculés dans les documentaires, mais aussi la possibilité de croiser un regard sociologique à un traitement cinématographique. 15 ans après votre départ d'Aulnay-sous-Bois, vous y retournez pour filmer la diversité culturelle de ce quartier d'enfance dans votre premier documentaire « La Tour du Monde ». Suivra ensuite Clichy pour l'exemple, les Sénégalaises et les Sénégaloises, puis le très remarqué La mort de Danton, portrait de Steve qui vit en Seine-Saint-Denis et qui a décidé de devenir acteur en suivant l'enseignement délivré au cours Simon. Puis vous réalisez La permanence en 2016 et enfin Vers la tendresse qui obtiendra le César du meilleur court-métrage. Alors aujourd'hui, nous attaquons simplement par vos débuts, donc par la jeunesse. Parlez-nous de votre parcours qui vous a amené à passer par des études d'histoire, la sociologie, avant de finalement vous tourner vers la réalisation de films documentaires.
C'est très vaste. Ce qui m'a amené à faire des études d'histoire, écoute, je crois que c'était avant tout une passion pour l'histoire, en fait, et peut-être même avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que c'était une manière de m'inscrire dans une espèce de continuité historique, dans une légitimité historique. C'est-à-dire que moi, mes parents sont arrivés dans les années 60, mon père en 62 et ma mère un peu plus tard, en 64 ou 66. Donc évidemment, on est toutes nées en France, enfin mes frères et sœurs et moi. Et en fait, il y a eu une espèce d'effacement total de l'histoire familiale. C'est-à-dire que mes parents, ils ne nous ont jamais raconté la vie qu'ils avaient eue avant d'arriver en France. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui commençait avec l'arrivée sur le sol français. Et il y avait totalement un effacement... En tout cas, de l'histoire transmise, en fait. Il y a quelque chose... Enfin, moi, mes deux parents sont morts aujourd'hui, mais je ne sais rien de ce qu'a pu être leur jeunesse, de ce qu'a pu être leur adolescence. Voilà, et c'est vrai que j'ai jamais posé de questions, mais parce que intuitivement et instinctivement, peut-être, je savais qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un tabou, en fait, d'une histoire qu'on a abandonnée, qu'on a laissée là-bas, et qu'il était sans doute pour eux très douloureux de réveiller, en fait. Et je dis ça parce que je pense que c'est aussi lié ça au type de film que j'ai envie de faire et au type de gens que j'ai envie de filmer. C'est-à-dire que c'est comme si mes parents avaient estimé que leur récit n'était pas légitime, qu'il n'y avait rien à transmettre et que c'était pas que cette histoire-là, que l'échec des indépendances, en tout cas, enfin, ils sont partis très, très peu de temps après les indépendances, donc comme avec déjà l'idée que de toute façon... Il allait rien en... Enfin, tu vois, les lendemains heureux avaient déjà déchanté deux jours après, tu vois. Il y avait quelque chose de ça. Donc, voilà, une histoire totalement... Quelque chose de cette histoire qui n'est pas racontée, qui n'est pas transmise. Donc, se retrouver un peu dépossédé d'une partie de son histoire. Et je crois que la découverte de l'histoire, entre guillemets, l'histoire de France, c'était aussi une manière de m'inscrire quelque part, je crois, Enfin, j'ai toujours été fascinée par l'histoire, hein, mais aujourd'hui, avec le recul, presque 30 ans après, je me dis bah, sans doute qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est noué. C'est-à-dire la volonté de comprendre un passé qui ne m'appartient pas complètement, mais qui m'appartient aussi. En tout cas, le revendiquer comme m'appartenant. Voilà, moi, j'étais fascinée par l'histoire de la Révolution française, par l'histoire médiévale. Enfin, vraiment, mon intérêt pour l'histoire venait vraiment de ça. Et que je pense que... sans doute qu'il y a quelque chose d'une manière de s'inscrire et de se légitimer quelque part, en fait, de s'inventer, en tout cas, une lignée, enfin, quand bien même elle ne serait pas intime, elle était politique, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre. Donc bon, je pense que c'est ça qui m'a emmenée à faire des études d'histoire. Et en même temps, j'avais un intérêt très, très fort pour la littérature. J'avais beaucoup hésité entre faire une fac de lettres et faire une fac d'histoire. Tant j'étais une lectrice, tant je suis toujours une lectrice compulsive. Et j'ai réglé la question en me disant, de toute façon, la littérature, ça peut pas être l'objet, ça doit rester l'objet du plaisir, ça peut pas être l'objet d'un enseignement. Enfin, l'objet, en tout cas, d'un enseignement académique. Ça doit rester quelque chose de l'intuition, du plaisir, de la joie, et pas quelque chose qu'on dissèque ou qu'on étudie. Et du coup, je me suis dit, voilà, que c'est comme ça que je me suis orientée vers des études à la fac en histoire. Donc au départ, les deux premières années, c'était donc j'ai étudié l'histoire moderne, l'histoire médiévale, hein, beaucoup, l'histoire antique. C'était un peu les modules sur lesquels je travaillais. Et en licence, comme ça, par hasard, j'ai assisté à un cours sur l'histoire de l'Afrique contemporaine. Et notamment, donc ça a commencé à la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux indépendances. Et là, en fait, j'ai été complètement choquée, je dirais vraiment choquée, de ce que j'ai découvert, de cette impensée, de l'impensée de cette histoire-là. C'est-à-dire que vraiment, moi, l'histoire de la conquête coloniale, c'est quelque chose qui m'avait jamais été raconté ni transmis à la fac, enfin pas à la fac mais au lycée, c'est-à-dire qu'on fait l'histoire de la décolonisation mais bizarrement personne nous apprend l'histoire de la... Et encore l'histoire de la décolonisation c'est vraiment un module très succinct, très très succinct en troisième ou en terminale, je sais plus. Mais en tout cas toute cette histoire de la conquête coloniale au moment de la Troisième République, ça a été quelque chose qui a totalement été passé sous silence et qui m'a sidéré parce que moi, j'avais grandi, et puis même dans deux années avant, et puis l'histoire légitime qu'on te raconte, c'est la grandeur de la Troisième République, c'est Jules Ferry, c'est Victor Hugo, c'est les droits fondamentaux acquis, c'est la liberté de la presse, la liberté c'est l'école républicaine gratuite, c'est la liberté d'expression, etc. Et dans le même temps, c'est les mêmes gens qui étaient les chantres d'une idée progressiste et d'un avancement républicain sans précédent, étaient ceux qui allaient légitimer une entreprise raciste et une entreprise de domination totale, quoi. Et qui allaient le consacrer dans ce terme, la mission civilisatrice, enfin, avec tout ce... Et donc, c'est très choquant de... C'est comme si tu découvrais... Enfin, moi, j'ai eu l'impression de découvrir l'histoire derrière le rideau, comme s'il y avait une histoire officielle et derrière, enfin, une espèce de vestibule comme ça, pas très heureux, et qui raconte des choses de nous-mêmes qui ne sont pas... qui sont pas très... Très... Comment dire ?
Très heureuse.
Ouais, très, très heureuse et très... Enfin, voilà, c'est vraiment cette espèce de décalage, quoi. Et là, j'étais complètement choquée et j'ai continué donc en maîtrise l'histoire africaine, donc l'histoire de l'Afrique médiévale et pareil la magnificence des empires du Sonra et des empires mandingues que j'avais jamais entendu. Enfin, donc tout d'un coup, c'est comme si cette histoire-là qu'on n'avait pas racontée, dont mes parents avaient sans doute presque honte en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Hein, c'est pas du tout des choses autour desquels on a discuté ensemble, mais tout d'un coup, cette histoire m'était révélée à la fois dans sa grandeur et sa magnificence, et en même temps dans son horreur et dans de la conquête coloniale, du code de l'indigénat. Enfin, et ça a été et du coup j'ai nourri un vrai intérêt pour qui a la légitimité du récit et qu'est-ce que c'est qu'un récit légitime et qu'est-ce que c'est que le régime un récit qui ne l'est pas et comment faire accéder à la légitimité du récit ceux qui ne pensent pas avoir droit de citer, droit de regard et droit d'écoute. Et je crois qu'au fond, il y a quelque chose du cinéma que je fais qui m'intéresse, qui part en tout cas de ces réflexions-là que je me formule de plus en plus, mais que je ne me formulais pas du tout ne serait-ce qu'il y a 4 ans. Enfin, c'est vraiment c'est des choses... qui m'intéresse de plus en plus et je me rends compte qu'ils sont à la base de mon désir de faire du cinéma, en tout cas.
Et comment concrètement vous passez en fait des études théoriques, quoi, d'histoire, de sociologie, à la pratique, la professionnalisation du cinéma? À quel moment vous vous dites je vais en faire mon métier?
Moi, en fait, j'ai fait une maîtrise d'histoire sur les intellectuels africains face à la décolonisation, c'est-à-dire au laboratoire intellectuel qui a pensé la négritude et donc tous ces mouvements d'émancipation intellectuelle en fait, à travers une revue qui s'appelle Présence africaine. Donc c'est une revue où étaient édités Aimé Césaire, Senghor, Léon Contran Damas, enfin des grands intellectuels, des grands penseurs de la négritude et de la lutte anticoloniale, mais voilà. Et du coup, je me souviens que j'ai passé une année extrêmement riche et extrêmement stimulante intellectuellement à écrire mon mémoire. Mais tout d'un coup, je me disais, mais en fait, toutes ces recherches, toutes ces découvertes extraordinaires que je fais, en fait, c'est pour qui? Ça va rester dans une espèce d'étagère comme ça au CERA, le centre de recherche africaine de la Sorbonne. Enfin, je me questionnais déjà sur la nécessité de démocratiser finalement un savoir et de le porter et de le faire accéder au plus grand nombre. Et en fait, la recherche universitaire, le monde universitaire me paraissait très restreint comme milieu et finalement très peu démocratique. Et voilà, il y avait plein de querelles d'ego entre chercheurs, etc. Mais je ne sentais pas cette volonté de transmission de cette pensée, de lui donner une forme qui puisse la rendre accessible. Donc j'avais très rapidement, en tout cas au moment où j'écrivais mon mémoire, très conscience de ça, en fait, à quoi bon finalement s'éclater seul, discuter. Enfin, en fait, c'est quand tu fais un mémoire de maîtrise ou un mémoire de DEA, finalement, tu es très seul. Et à part tes directeurs de recherche, il y a très peu de gens qui ont accès à ton travail. Donc voilà, ça c'était une première réflexion. Donc j'ai fini mon mémoire, j'ai entamé un DEA. Et en fait, dans le cadre d'un cours sur les sources, sur les différentes sources de l'histoire africaine, les sources orales, les sources écrites, et en même temps les sources aussi de travaux anthropologiques, donc une de mes enseignantes, enfin une de mes profs, nous a montré donc le film d'Hélène de la Tour qui s'appelle Contes et contes de la cour. Et en fait, ce film, c'est à la base son travail de recherche, sa thèse de doctorat qu'elle a transformée en film. Et je me souviens avoir été complètement éblouie par la beauté de l'image, par effectivement la qualité cinématographique et en fait et par la façon dont elle d'hôtel abordait en fait des choses extrêmement complexes de l'organisation d'une société Mossi au Niger, mais qu'elle rendait compte par la sensibilité d'une écriture cinématographique. Et là, donc, j'ai été vraiment séduite par ça. Et donc, j'ai découvert finalement, parce que pour moi, le documentaire, c'était le documentaire que mon père regardait sur la vie de Charles de Gaulle, la vie d'Ho Chi Minh, de Che Guevara. Enfin, mais c'était pour moi, voilà, des trucs très télévisuels, très, très formatés, très didactiques. Mais le champ sensible et cinématographique du cinéma documentaire, je ne l'avais jamais vraiment approché. Et je l'ai approché à travers ce film. Et aussi, donc, et voilà, qui, à travers ce travail de recherche universitaire qui devenait un film. Donc là, il y avait quelque chose qui m'a complètement parlé, quoi. Et du coup, dans le CIA, j'ai rencontré une fille qui venait de rentrer en DESS et qui faisait ce DESS à Ivry. Et donc, elle m'a parlé, c'est la première personne à m'avoir parlé de ça, de cette possibilité de faire des études et d'apprendre à lier justement une approche en sciences sociales et sciences sociales et humaines et au cinéma. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais faire une année sabbatique, je vais arrêter mon DEA, je vais me regarder plein de films documentaires, essayer de nourrir une cinéphilie que j'avais pas du tout, et je vais m'inscrire l'année prochaine en DESS. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant un an. Donc j'ai été à la BPI à Beaubourg là, et j'ai regardé des films documentaires de, voilà, j'ai commencé par les films de Wiseman, j'ai découvert Chris Marker, les films de Jean Rouch, Chronique d'un été, enfin voilà, je me suis totalement j'ai construit en fait une cinéphilie documentaire là-bas, et ça m'a vraiment plu, quoi, ces deux approches là je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi.
Mais là, ce que vous suivez, c'est un DESS de sociologie visuelle, c'est ça?
En fait, il s'appelle Images et Société, c'était un master 2 aussi qui existe toujours un peu dans le même l'esprit que le DEMC, là, c'est exactement le même, je pense. Donc c'est un master de réalisation de documentaire, mais qui s'appuie sur un laboratoire de recherche en sciences sociales et humaines, okay. Sur de la socio, en fait. Mais en fait, on devait faire un film à la fin. Notre mémoire de DESS, c'était un film...
Donc c'est dans le cadre de cette formation-là que vous vous dites, en fait, je peux en faire... Il y a des gens qui travaillent pour fabriquer ces objets-là, ouais. je vais en faire
ouais.
Mon métier.
Ouais. Okay. En tout cas, ouais, je vais essayer de faire des films, quoi. Ouais.
Ok, donc c'est avec cette formation que vous vous formez quelque part un peu à la pratique et à la fabrication, ouais. du cinéma. Il me semble que d'ailleurs, vous faites quand même l'atelier d'écriture de la FEMIS.
Oui, quelques années après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce DESS. Ouais. Et avant de rentrer en DESS, j'avais écrit un projet sur les femmes de ménage. Des portraits de femmes de ménage qui étaient une espèce d'autoportrait un peu, enfin d'autoportrait, de porter des références à ma propre mère qui était elle-même femme de ménage. Donc j'avais écrit un projet de film sur le portrait de ces femmes invisibilisées qu'on ne voit jamais, qui viennent nettoyer les bureaux avant qu'on y arrive, etc. Et de retracer l'histoire de cette immigration au féminin et à travers, voilà, le portrait de ces femmes comme un écho et comme un hommage à la vie de ma propre mère. Donc j'ai créé ce projet pour rentrer en DESS. Et en fait, ma sœur, à l'époque, elle travaillait pour... moi, j'étais en Égypte en vacances. Enfin, je suis partie un mois faire un road trip en Égypte. Et donc, je devais remplir les dossiers pendant que j'étais pas là. Donc, c'est ma sœur qui s'en est chargée. Et elle, à cette époque, elle travaillait pour la Fondation Canal+. Elle était assistante de direction pour quelqu'un qui travaillait là-bas. Il s'avère que cette personne-là avait pour ami un ancien producteur d'une boîte de production qui s'appelle Point du Jour, qui existe toujours. Et donc, elle est en train d'envoyer mon dossier. Excuse-moi, je bafouille énormément, mais
non, c'est
parce que je suis tellement... Enfin bref. Et donc ce Jean-Louis Saporito, donc cet ancien producteur de Point du Jour, demande à ma sœur, mais alors qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce dossier que tu es en train de remplir? Elle dit, bah, c'est ma sœur qui veut s'inscrire dans une formation de DESS et tout ça. Elle a écrit un projet de film et il l'a lu, il a trouvé ça super. Et il l'a envoyé au producteur de Point du Jour qui s'appelle Luc Martin-Gousset, qui l'a trouvé génial. Donc j'arrive de vacances, je suis convoquée alors que j'avais même pas encore été prise à Ivry. Il y a un producteur qui m'appelle, qui me dit, voilà, je viens de lire votre dossier, je trouve ça super, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'étais complètement hallucinée, si tu veux. Et donc, je le rencontre, et ça, c'est la rencontre se passe très bien. Il me dit, voilà, on aimerait proposer ce projet à France 2, c'est génial, je trouve ça super bien écrit, alors que j'avais jamais rien écrit, tu vois. Et donc, bon, donc je dis, bah oui, mais bon, là, je fais une formation, j'espère que je serai prise. Et peut-être que du coup, ça peut se faire, les deux peuvent se faire parallèlement. Donc, je suis prise à Évry et donc je rentre très vite en production avec, avec lui sur un projet que je voulais développer dans le cadre de ma formation, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, je n'ai pas développé ce projet. Enfin, c'est finalement, la différente année d'écriture a recentré le projet initial autour d'un portrait de mon père. Et en fait, là, plus je te parle, plus je me rends compte que le film sur lequel je travaille, en fait, c'est un... je reprends tous ces fils-là, parce que c'est dingue, je n'avais même pas fait le lien. Donc en fait, voilà, donc le premier film que j'ai fait dans le cadre du DSS, c'était un portrait de mon père, un portrait très intime de lui, à travers toute la question de l'impossibilité du retour, en tout cas dans le pays d'origine. Et de ce film avec Point du jour ne s'est pas fait parce que voilà, j'étais un premier film, j'avais 22 ans, je crois, 23 ans, j'étais hyper jeune, j'avais jamais rien fait avant. Et la nana de France 2, là, qu'on avait été rencontrée, m'avait trouvée très jeune. Hein, m'avait dit, elle a sans doute du talent, mais je la trouve un peu jeune pour lui confier comme ça, alors qu'elle a jamais rien fait, 1,52. Et du coup, peut-être qu'il faut qu'elle fasse des choses avant et qu'elle revienne nous voir 2 ans après. Et du coup, Luc Martin Gousset m'a proposé ce film, un film de commande. Donc ça, tout ça, c'est pendant la formation. Hein. Autour de... Donc c'est Voyage, la chaîne Voyage qui lui avait proposé de faire un film de commande, un film de voyage dans une cité, dans un immeuble. Et donc il me propose ça, de faire un espèce de... Voilà, de reportage documentaire autour de différences traditions culturelles dans un même immeuble. Hein. Un peu à la... et du coup, moi, je m'empare de cette commande qui ne m'intéressait pas tellement dans cette perspective-là pour essayer d'en faire quelque chose de plus intime, de plus personnel. Et c'est ce qui donne ce premier film, La Tour du Monde, qui est un film que je n'assume pas du tout parce que voilà, c'est un film que je trouve finalement très marqué par une écriture télévisuelle. Et en même temps, il y a quelque chose qu'il cherche. Il y a quelque chose que je cherche même dans le deuxième Clichy pour l'exemple, qui n'est pas tout à fait abouti et qui rencontre à la fois une expérience et une volonté de formatage très fort de la télévision qui fait que c'est des objets hybrides qui me satisfaisent pas, qui ne me satisfont pas. Pour moi, mon premier film, vraiment, c'est Les Sénégalaises et la Sénégaloise, qui est un film que je peux assumer de A jusqu'à Z, y compris dans ses imperfections. Et donc ce film-là, donc tout ce que je te dis, donc moi j'ai commencé ces deux premiers films avec Point du jour et La Tour du Monde, et ensuite j'ai tout de suite enchaîné sur Clichy sous bois, enfin sur Clichy pour l'exemple, parce qu'il y a eu les émeutes à Clichy et que j'ai été sur place et que voilà, j'ai commencé à tourner très vite avec la volonté de raconter les violences silencieuses et pas m'écarter du traitement journalistique de l'événement qui était des comptages des voitures brûlées et oh là là, qu'est-ce qu'ils sont violents, ces jeunes sauvages. Enfin, voilà, il y avait une volonté de raconter ce passage à l'acte, enfin, de raconter les raisons insidieuses et symboliques et silencieuses de ce passage à l'acte. Donc, il y avait quand même. Mais. Donc, j'ai enchaîné très vite ces deux films en sortant de l'université, enfin, de mon DESS, avec quand même cette idée que l'écriture télévisuelle ne me satisfaisait pas, que j'avais l'impression que les films que j'aimais, que les films de cinéma direct comme Wise Man, etc., travaillaient une écriture qui ne m'était pas permise de travailler, en tout cas dans le cadre de la télé, et que j'avais aussi à continuer à apprendre et à développer et à réfléchir et travailler avec des gens qui pouvaient m'amener à aller plus loin dans une forme cinématographique qui m'était pas que j'estimais pas vraiment possible avec Pointe du jour, parce que bien qu'ils étaient extrêmement avec moi généreux et qui, enfin, vraiment, Luc Martin Gousset, je lui dois ma carrière, hein, c'est lui qui m'a lancé, qui m'a permis de faire mon premier film alors que j'avais 24 ans à l'époque. Mais c'est vrai que je sentais pas chez lui et dans cette boîte de prod qui avait l'habitude de faire des projets très télé une volonté d'être plus exigeant sur la forme et dans le cinéma. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait la FEMIS, en fait, que je me suis inscrite dans une formation à la FEMIS pour me donner l'opportunité d'aguerrir et d'aiguiser
une autre écriture.
Voilà, une écriture cinématographique.
Et d'où quelle différence vous faites entre le... Parce qu'en fait, à peine vous êtes en train de vous former, que vous travaillez, vous êtes déjà en train de faire des films, donc il y a une espèce d'aller-retour entre l'apprentissage et la pratique. La formation et la mise en pratique de cette... du métier de réalisateur, quoi. Elle est très hybride, vous faites les deux en même temps. En fait.
Elle est très hybride et c'est vrai que moi, pendant très longtemps, j'ai ignoré un complexe de ne pas avoir fait des écoles de cinéma, de comme la FEMIS, de ne pas avoir appris vraiment la mise en scène. Mais en fait, je m'aperçois que enfin, pour le coup, apprendre sur le tas, c'était hyper, hyper pertinent parce que c'est vrai que c'est très court pour apprendre ce que c'est que pour apprendre son métier et pour apprendre la mise en scène, l'écriture, le cinéma, etc. Mais l'intérêt de la formation à Évry, c'est qu'elle m'a donné une cinéphilie assez forte et des références très fortes. C'est là où j'ai rencontré Van der Keuken, Wiseman, les films de Varda, je me souviens. Des glaneuses et la glaneuse qui venait de sortir. Enfin, voilà, donc c'est des formes très éclatées, les films de Dominique Cabrera, enfin, des documentaires au jeu, de cinéma direct, des films plus stylisés. Enfin, et en même temps, j'avais pas encore suffisamment de compétences pour digérer cet apprentissage-là et pour le mettre en forme. Donc j'avais des références hyper fortes, genre moi je vais faire un film à la Public Housing, et en même temps j'avais aucune expérience concrète. Je veux dire, pour avoir l'audace de dire je vais pas mettre de voix off et je vais faire un film, il faut encore trop. Il faut travailler, enfin c'est encore plus difficile finalement, il faut avoir une manière d'écrire le film qui est particulier. On ne peut pas se permettre de dire juste je ne vais pas mettre de voix off parce que ça fait télé, alors que dans la manière dont on a tourné le film, c'est pas envisageable ou c'est pas possible. Et du coup j'avais à la fois une espèce d'aspiration et des références très fortes et un désir de cinéma qui se situait de ce côté-là, mais effectivement un manque d'expérience qui faisait que tu vois, c'est difficile de résister face aux injonctions de la télé quand toi ce que tu as proposé c'est pas non plus extraordinaire, tu vois. Bien donc sûr. Et en fait, c'est ça que j'ai mesuré. Je me suis pas dit, la télé, c'est tous des cons, ils comprennent rien, moi, je suis une cinéaste, etc. Je me dis, voilà, oui, toi, ils t'ont imposé une voix off, tu voulais pas mettre de voix off, mais comment t'as tourné? Mais en fait, comment t'aurais pu tourner comment t'aurais pu écrire, comment t'aurais pu travailler ta narration, la dramaturgie, ta manière de filmer pour ne pas avoir besoin de raconter ce que ton image ne raconte pas elle-même. Enfin, donc tout ça, ça a été une réflexion et un apprentissage sur le terrain. Je pense que Clichy pour l'exemple, j'allais un peu plus loin que le premier film, mais c'était pas encore tout à fait satisfaisant. Et c'est vrai que quand le film, ils en ressent, il y a des moments de cinéma direct pur, et puis des fois, il y a une voix off, mais imposée effectivement pour le coup par la chaîne. Parce que moi, j'avais fait un montage où il n'y avait pas du tout de commentaires, pas du tout de voix off. Et en même temps, ça tenait pas vraiment, parce qu'il y avait des trucs très éclatés un peu partout. Enfin voilà, j'étais pas Wiseman, quoi. Je le suis toujours pas d'ailleurs, mais ça, c'était pas. C'était pas suffisamment construit. Mmh. Et du coup, c'est face à ce constat que j'ai fait de mes propres limites que j'ai décidé d'aller à la FEMIS pour essayer d'aller plus loin, quoi.
Il y a cette citation du réalisateur américain Samuel Fuller qui disait il faut faire des films quand on est en colère. Et moi, je trouve qu'en visionnant chacun de vos films, on s'aperçoit qu'il y a même si vous dites qu'il y a certains films que vous regrettez ou que vous assumez comme moyennement, je trouve qu'en les visionnant, on s'aperçoit qu'il y a quand même un lien évident qui les lie, qui serait celui de donner la parole aux invisibles, à ceux qui n'ont pas vraiment les haut-parleurs médiatiques, comme vous dites. Et on comprend votre geste de cinéma, mais on le sent parfois aussi exulté avec une forme un peu de colère. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il faut être en colère contre le réel pour pouvoir le raconter, mais aussi pour pouvoir le réenchanter?
Je suis pas sûre que ce soit une condition sine qua non, mais en tout cas, c'est clair que jusqu'à présent, on va dire, mes films naissent effectivement d'une je sais pas si c'est d'une colère, mais en tout cas d'une insatisfaction totale face à au sort qui sont faits au mien, quoi, aux gens, et aussi à cette volonté de montrer, mais de montrer non pas moi, en fait moi je me méfie beaucoup des discours aujourd'hui. Le discours posé sur la banlieue, enfin le niveau même du débat politique est d'une indigence telle que je me dis que c'est plus à cet endroit-là qu'il peut en émerger quelque chose, en fait. Et effectivement, quand on vit comme moi, quand on a vécu toute sa vie comme moi à la marge, je crois que de cette place-là, on voit quelque chose du centre. Que les gens qui sont au centre ne peuvent sans doute pas voir. Et que c'est hyper important de pouvoir raconter la France en la regardant de là où, enfin pour moi, hein, de là où je suis, quoi. Et tu vois, c'est sur la question de la discrimination, la question du racisme, la question d'une impensée du racisme, la question de la mystification républicaine, la question de la mythologie républicaine, où on te dit que l'homme est, enfin, la République est une et indivisible, et toi, depuis la plus tendre enfance, ton expérience quotidienne, ton expérience sensible, c'est une négation de tout ça. C'est quelque chose dans l'expérience concrète. C'est pas qu'une théorie idéaliste. C'est juste dans ma vie, je n'ai jamais approché de près ou de loin. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas vu. C'est une utopie. Oui, et en même temps, moi, je dis ça, mais je suis une enfant de la méritocratie républicaine. Mais quelque part, je me rends compte que, voilà, quand j'étais au lycée, on était très peu, enfin, des gens qui venaient de ma cité, ils se sont arrêtés sur le bas-côté c'est le CM2 ou la 6e, tu vois. Et c'est pas que j'ai une intelligence surdimensionnée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est, donc, tu vois, donc c'est cette volonté aussi de raconter mon pays, en fait, mais de raconter à cet endroit-là. C'est comme ce que je te disais sur ma découverte de l'histoire africaine. C'est que finalement, découvrir le partage de l'Afrique, la mission civilisatrice, ça raconte quelque chose aussi de la Troisième République. Ça dit quelque chose du rapport de la France à ses colonies, ça dit quelque chose d'elle-même, en fait. Et du coup, je me dis qu'on peut s'en sortir que quand on est dans une, on ne pourra s'en sortir que quand on pourra affronter le réel, en fait, et quand la France pourra affronter réellement son réel, pourra se regarder en face. Et donc ça, c'est quand même, effectivement, ça naît d'une colère, parce qu'on te dit, mais non, mais tu dis le racisme, mais ça, c'est communautariste, il n'y a pas de racisme, parce qu'on est dans un État républicain, il n'y a pas de communauté, parce que ceci... Enfin, je veux dire, et toi, tu dis, mais attends, les violences policières, c'est quoi? La discrimination au logement, c'est quoi? Enfin, les discriminations, la ghettoisation, les relégations sociales, c'est quoi? C'est un fantasme, mais c'est très difficile de dire ça, parce que c'est très difficile de pouvoir raconter cette expérience-là en utilisant les armes du discours, parce que le discours inverse est tellement... est tellement creux et tellement ne veut tellement pas voir, hein, que en fait c'est, moi je te dis ça, mais non, c'est très brouillon ce que je raconte, mais en tout cas je sais que ça ne peut plus passer par la politique, par nous, enfin par dire de façon par dire la souffrance, quoi. Parce qu'en face, quand les gens ne veulent pas voir, enfin, est sourd celui qui ne veut pas entendre, hein, et aveugle celui qui ne veut pas voir, enfin ça c'est vraiment et du coup le cinéma, c'est aussi une manière d'aller au-delà, finalement, des discours idéologiques et partisans, et par l'expérience sensible, de raconter, bah voilà, voilà ce que c'est que le racisme impensé, voilà ce que c'est que le racisme qui s'ignore, voilà ce que c'est que ce que peut-être que toi-même tu as habité et tu ne le sais pas. Et la mort de Danton, ça naît de ça, voilà ce que c'est que d'être enfermé dans son corps de noir, voilà ce que c'est que d'être enfermé dans l'image que l'autre a de toi, voilà ce que ça produit, voilà à quel point c'est violent. Tu vois, c'est une manière de dialoguer, c'est une manière de raconter nos expériences en passant par l'expérience sensible et pas par asséner un discours qui peut être annihilé, anesthésié, ne pas être entendu et te renvoyer encore plus à cette violence-là. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire « je souffre » et ne pas être écouté, de ne pas être entendu et de dire « non, tu mens » ou « non, c'est pas vrai » parce que... Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'on est non-noir et arabe aujourd'hui en France, on sait quelque chose de la France que, je te jure, c'est sans être... je sais pas, que c'est pas violent ce que je dis, que les Blancs ignorent. Enfin, en tout cas, que certains Blancs ignorent. Et ça, j'en suis convaincue, quoi. Et il y a... Et je crois que le dire comme ça, ça paraît un discours... Enfin, pas partisan, mais un discours idéologique qui a ses limites et qui peut... on peut tout à fait contester, mais je pense que l'expérience d'un film, je crois que... Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, quoi, qui fait que tu crées une empathie et tu permets la possibilité de regarder la vie de l'autre en suscitant l'émotion, en suscitant l'empathie. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort et pertinent que les slogans dans une manif ou que écrire une tribune dans tel journal ou tu vois, de dire son indignation sur Facebook ou Twitter, tu vois. J'ai l'impression que ça va plus loin et que c'est plus pertinent et que ça permet un dialogue et une reconnaissance qui est beaucoup plus forte, en fait.
Il y a toujours comme thème de fond votre volonté, du coup, vous l'avez un peu évoqué, de raconter la marge. Alors après Clichy pour l'exemple et les Sénégalaises et les Sénégaloises, vous dessinez le parcours de Steve, un jeune acteur noir s'évadant de sa cité par l'apprentissage du théâtre dans un grand cours parisien. On est en 2011 et le film s'appelle La mort de Danton.
Steve, comment allez-vous?
Bonjour, ça allait bien?
Très bien.
Très bien.
Je regarde de près, alors. Enfin, je vois de plus près, quoi. Ça va?
Ouais, ça va, tranquille. Merci à Dieu.
Je vous ai vu sur scène. Franchement, j'ai adoré. Pour être simple.
on va pas dire des mots plus forts que d'autres. Il faut qu'on reste simple. Et franchement, j'ai adoré quoi. Je me suis dit, espérons qu'il a pas déjà un agent. Tout est possible. Hein.
Ouais, bien sûr.
Et puis, j'ai beaucoup de chance que vous m'avez rappelé.
Ah ben, j'ai eu de la chance aussi que vous m'avez donné votre carte.
Parce que j'ai eu de la chance de vous voir sur scène. Ouais.
C'est vrai.
Toute relation commence... La chance, moi, j'y crois beaucoup aussi. Hein. C'est un élément... C'est un élément important. Hein. Et puis là, on se rencontre, enfin.
On se rencontre.
Et on sait pas, hein. C'est peut-être une rencontre deux inconnus, et puis un jour il y aura une star et un autre inconnu. Alors on sait qui c'est, dans mon cas, la star ça peut être que vous. Et quels sont les films qui te font. T'as un mentor, un comédien qui te...
Moi en France, c'est Gabin et Lino Ventura, l'ancienne école. Quoi.
Et là tu vibres quand t'es au cours Simon?
Ouais. Sur les planches, on vibre. Ah, quand on monte sur les planches, voilà quoi. On est libre.
Ah, tu le sens comme ça, hein.
On est libre. On est bien. Il n'y a plus rien, c'est... Voilà, quoi, c'est... Mm. On incarne des personnages, c'est magnifique.
Malgré le rôle, quoi, parce que le rôle que tu jouais sur scène quand je t'ai vu au cours Simon, c'était un rôle... Moi, franchement, j'étais vraiment impressionné par ta prestation. Sorti du rôle, t'aurais pu être tout le monde, quoi. Ouais. Là, j'ai aucune idée du Steve de la vie de tous les jours, si je peux dire.
Ouais, c'est clair. C'est ce que j'aime bien dans ce boulot. C'est qu'on croit, dès que je marche, même quand je marche dans mon quartier, ça me le fait. Je me dis, s'ils savaient que je faisais du théâtre, mes potes. Pas pour m'en vanter, mais voilà, quoi, c'est... Je sais pas, j'arrive à faire la part des deux choses. Ouais. Au théâtre, je peux faire ce rôle, et quand je suis dehors, je suis une autre personne.
Parce que si te voyais sur scène,
ils me reconnaîtront pas.
Ouais, c'est sûr.
C'est clair, ils me reconnaîtront pas.
Personne d'ailleurs, c'est un peu le bonheur du cinéma, le bonheur du théâtre. Quoi.
C'est clair. Ils me reconnaîtront pas s'ils me voient sur scène. Clair et net.
C'est un film un peu comme une forme d'un geste gracieux. Il enveloppe Steve, comédien en devenir, qui vit un conflit tiraillant, assumer la complexité de ce qu'il est et parvenir à la communiquer aux autres. Alors les autres, c'est à la fois ses camarades du cours Simon, mais ce sont aussi les gens du quartier de la Cité des 3000, à qui il cache le fait de faire du théâtre depuis 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous esquisser un peu rapidement comment vous initiez ce projet-là, mais aussi bien sur votre rencontre avec Steve que sur votre cadre de travail pour commencer à le filmer et à faire ce film en fait?
Bah en fait, si on se connaît depuis l'enfance, la petite enfance, parce qu'on a grandi dans la même rue au 3000. Mais effectivement, je l'avais pas. J'ai déménagé à 10 ans pour aller habiter dans une autre cité, plutôt vers les Grosseaux, vers Sevran-Medot. Et donc, j'avais en fait perdu de vue Steve. Et je l'ai recroisé 15 ans ou 20 ans après, peut-être 15 ans après, à l'occasion du mariage de sa sœur. Et donc voilà, je les vois arriver. Steve, il avait pris, enfin, hyper. Il faisait 1m98, il est hyper grand, hyper baraqué. Comme ça, il a une façon de marcher très chaloupée, une manière de parler qui est très, très connotée banlieue, hein, clairement. Et donc, avant même de lui parler, je m'imagine déjà. En fait, sa trajectoire. J'imagine que je me dis, Steve était tellement mignon quand il était petit. Là, en fait, tu vois, il avait tous les dehors et tous les attributs du délinquant de la cité. Et j'avais, comme ça, sans lui parler, hein, comme quoi les préjugés et les stéréotypes sont partagés par tous. Il n'y a rien de plus universel que stéréotypes. Donc, je commence à m'imaginer qu'il fraye avec la petite et délinquance. Et tout ça, donc je vais le voir et puis là il me dit écoute voilà, faut que je te dise un truc parce que je sais que Manadine m'a dit que tu étais dans le cinéma, faut que je te dise un truc, je l'ai dit à personne mais depuis 3 mois je me suis inscrite à l'école Le Cours Simon et je veux devenir comédien, j'en ai pas parlé à ma famille, j'en ai pas parlé à mes amis, tous les jours je pars à Paris en cachette et voilà c'est extraordinaire ce que je découvre parce que j'avais jamais été à Paris, moi le seul endroit que je connaissais c'était Châtelet et Place Clichy et là tout d'un coup j'ai été au Déon la dernière fois pour m'acheter une chemise de comédien et j'ai halluciné de voir ça quoi. Et en fait, ça m'a absolument bouleversée qu'il me raconte ça, qu'il me fasse cette confidence-là. Et moi, à l'époque, j'étais très marquée et j'avais envie de travailler sur la question des transfuges de classe, sur, qui est devenu un terme très à la mode, mais qui était un peu moins à l'époque. Donc sur des gens qui, comme moi, étaient passés d'une classe sociale à une autre, même si je n'étais pas vraiment encore... Enfin, même si je ne sais pas vraiment si je suis passée dans un autre cadre, mais en tout cas, voilà, je ne suis plus vraiment... voilà, je suis passée, j'ai quitté la cité, j'ai quitté... quelque part ma classe sociale ouvrière, j'ai fait des études universitaires à la Sorbonne, voilà, je suis devenue cinéaste, enfin, c'est des choses qui me intimement me questionnaient vraiment de ce moment de passage, ce moment de transformation et ce qu'il implique socialement, ce qu'il implique psychologiquement, ce qu'il implique aussi de culpabilité par rapport à ceux qu'on a laissés derrière soi, par rapport à sa famille avec qui se crée un écart. Enfin, voilà, il y avait toutes ces questions-là qui m'intéressaient d'un point de vue personnel. Donc je me souviens que je lisais La Distinction de Bourdieu, que je lisais Les Héritiers, enfin, et que j'avais envie, que voilà, que je m'intéressais là-dessus. Puis il y a eu en 2008 l'arrivée au pouvoir de, enfin en 2007 de Nicolas Sarkozy, avec toute cette émergence comme ça de personnalités issues de la diversité, même si je déteste ce mot-là, qui eux-mêmes devenaient les agents d'une forme de méritocratie républicaine dévoyée, en disant voilà, moi regardez, je m'appelle Ramayad, moi je m'en suis sortie, donc ça veut dire que quand on veut on peut. Enfin, moi ce discours-là, moi aussi effectivement j'étais à la Sorbonne et tout ça, mais je vois bien que c'est pas qu'une question de quand on veut on peut, qu'il y a énormément, enfin c'est pas qu'une question de volonté, et que cette que dire la volonté individuelle, c'est nier aussi le déterminisme social, le déterminisme politique qui fait que voilà, il y a certaines gens qui veulent mais qui peuvent pas, quoi. Et du coup j'étais à la fois scandalisée par ce storytelling porté par ces personnalités qui devenaient les porte-parole de la diversité heureuse et méritocratique, quoi. Mon expérience personnelle, mon trouble, etc. Et tout d'un coup, je rencontre Steve qui me raconte ça et tout s'emboîte chez lui, quoi. Alors, et donc, je vais le voir une fois ou deux fois au cours Simon. En me disant, voilà, il est en train de vivre une expérience qui peut-être va l'emmener à se transformer, tout ça. Et donc, peut-être que je pourrais, de façon sensible, raconter cette histoire, qui est en fait mon histoire personnelle, quoi. Même si Steve et moi, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, là, j'avais au cours Simon pendant. J'assiste à deux cours, hein, et je suis hallucinée par ce que je vois, par cette violence impalpable. Et c'est cette violence qui ne dit pas son nom, parce que c'est pas « casse-toi sale noire, t'as pas de place ». Et du coup, la mort de Danton me permet de mettre en forme tout ça.
Et justement, comment vous mettez en forme cet indicible? Vous avez, là, c'est vous qui faites le film, c'est vous qui cadrez ce film, c'est vous qui filmez Steve, vous avez une équipe avec vous, est-ce que vous travaillez avec la même société de production avec qui vous avez travaillé les films d'avant?
Non.
Comment vous construisez votre cadre de travail pour ce film-là, quoi?
Bah en fait, oui, en fait, non, j'ai travaillé avec un ami qui est aussi réalisateur, qui s'appelle Blaise Harrison, que j'avais été voir parce que j'aimais beaucoup les petites. À l'époque, il faisait des courts-métrages pour une émission d'Arte qui s'appelait Cut Up. Et donc, j'ai travaillé, enfin, très vite, j'ai senti que. J'ai commencé à tourner moi, toute seule, hein, et j'étais pas du tout satisfaite de la qualité de l'image. Et je me disais, en voyant Steve, en voyant sa ciné-génie, qu'il méritait le cinéma. Et que c'était pas moi avec ma petite caméra DV pourrie, avec mes cadres imparfaits, qui pouvait lui offrir ça. Et donc tout de suite l'idée de travailler la forme, de travailler l'image, de travailler la cinématographie, d'offrir ça à Steve quelque part, à un acteur en devenir, ça a été quelque chose que j'ai tout de suite désiré. Et du coup, voilà, j'ai été chercher un chef-op, pas n'importe quel chef-op, un chef-op dont j'aimais la sensibilité et de l'image, quoi. Mais en même temps, voilà, il y avait une équipe très restreinte et moi, je suis très, très proche de Steve. Donc, je m'ai collé au corps pendant quasiment 3 ans, en fait. Je savais que ce que je voulais raconter ne pouvait exister que dans la durée et que, voilà, je comptais sur le temps, je comptais sur... voilà, je me suis donné ce temps-là. Je me suis dit, voilà, en 3 ans, il faut que tu filmes les 3 ans. Parce que forcément, moi, il y a des choses que je voyais dès le début, que Steve ne voyait pas du tout. J'avais pas du tout envie de lui en parler parce que je voulais qu'il fasse sa propre expérience. J'avais pas envie de lui mettre mes propres mots dans la bouche. J'avais pas envie de lui mettre mon expérience dans la bouche. J'avais envie qu'il fasse son expérience. Et de fait, c'est pas tout à fait la même que ce que j'ai vécu. J'avais pas envie de lui mettre ma colère. De toute façon, lui, il était pas du tout dans la même, il était pas dans la même colère que moi, parce que lui, il avait une cesse, c'est de devenir comédien. C'était pas de se poser des questions politiques. politiques et des questions, tu vois, c'était pas de se poser ces questions politiques.
Bah, il n'avait pas encore rencontré aussi la violence de ce qu'il allait connaître plus tard. Quoi. On parlait de la cinéphilie de Steve, et pourtant, c'est un film que vous faites pour la télévision ou avec la télévision. Pourquoi à ce moment-là, vous n'allez pas, peut-être que vous ne sentez pas que c'est pas encore le moment, vers la salle, vers le cinéma?
Moi, je suis jamais allée d'ailleurs vers la salle du cinéma. Mmh. J'ai tous mes films. En fait, c'est pas vraiment pour la télé. C'était plus un film que je voulais orienter en direction des festivals. Donc, c'est un film qui a eu des aides à l'écriture, des aides au développement, qui a été assez bien produit, mais pas par la télé. En fait, par une petite chaîne du Cap, mais pour déclencher le COSIP. Mmh. Et c'est un film qui a eu une carrière au festival. Il a eu un prix au Festival du Réel. Il a plutôt eu une existence comme ça en festival. Mais c'est vrai que non, je ne l'ai pas... Alors, il avait été pris à Cannes, à l'Acide de Cannes. Et en fait, pour des raisons de production, on n'a pas pu le soumettre parce qu'il y avait une chaîne... Il y avait Planète qui... Et en fait, il aurait fallu... rendre l'argent de Planète, ce que mon producteur de l'époque n'a pas voulu prendre ce risque-là.
D'accord. On va faire un petit bond en avant et arriver en 2016 pour arriver dans un bureau de consultation de l'hôpital Avicenne. Et c'est un nouveau film qui s'appelle cette fois-ci La Permanence.
Alors, monsieur... Good. So, good certificate for you. I hope.
The prefecture, no?
No prefecture.
Okay.
Finnish prefecture. We send that.
Ready.
I send that.
Okay.
Prefecture. Y después se debe esperar. 6 months?
Oh, 6 months.
Si.
Para this paper, the prefecture... prefecture, this paper, no, this...
RCPC?
RCPC. No, ainsi RCPC.
No, they don't give RCPC. You must, in about 6 months, you have an answer. Yes or no? Say.
They are going to send it, yes? Don't worry, hospital. They are used to send it, yes? Problem, sleeping problem. No house.
Yeah, I know that.
Understand?
But maybe if you have...
For a long time, 6 months, very long time.
Yes, maybe a long time.
The paper... If you have this paper, that you don't have problem with police.
La première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui se passe pendant ces 5 ans? Parce que La Mort d'Anton, vous le terminez, il me semble, en 2011. Là, on est en 2016. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 5 ans? Est-ce que ça a été le temps nécessaire pour préparer ce film? Et puis le suivant, Vers la tendresse, qui sera également fait à peu près dans le même temps, je crois. Voilà, qu'est-ce qui se passe pendant 5 ans, entre 2011 et 2016?
Bah, la vie des films, la vie de les difficultés de production, les producteurs avec qui on s'engueule, les projets qui avortent, et puis la vie, quoi. Moi je pense que je suis assez lente, j'ai un temps de maturation qui est très lent. Alors maintenant ça m'inquiète même.
Parce que vous avez eu des projets qui ont été avortés pendant cette période-là, vous
dites. Non, en fait, j'ai lancé les deux projets en même temps. Et avec la même boîte de production, et je me suis disputée avec la productrice qui était pourtant une amie, mais j'estimais qu'il n'était pas du tout, qui travaillait sur le film d'un beaucoup plus grand réalisateur que moi, dont je citerai le nom, et j'ai senti que j'étais un peu à la marge, je vivais dans cette boîte de prod la même chose que Steve, j'étais vraiment mis de côté, quoi. Je sentais vraiment que c'était pas à moi. Sur lequel il fallait miser, et que j'étais un peu la sans-papier de la société de production. Et du coup, donc ça a mis beaucoup de temps, je ne me sentais pas du tout accompagnée. Puis, j'avais commencé à travailler sur Vers la tendresse, en fait. Et donc, j'ai senti que mon désir, en fait, par cette non-reconnaissance, par ce non-regard, par ce non-investissement, était en train de s'épuiser, ça me nuisait, parce que j'avais pas de retour. Et du coup, j'ai abandonné vers la tendresse. Et j'ai travaillé pour une émission pour LCP, avec Point du Jour, la boîte de prod là, avec qui j'avais fait mes deux premiers films. Et le cadre de cette émission magazine, c'est un magazine qui s'appelait Ego Mais Pas Trop, qui était animé par une amie qui s'appelle Roca Diallo. Et je faisais un film sur un magazine, enfin un reportage sur la question de l'égalité d'accès aux soins. Et dans le cadre de ce travail de repérage pour ce magazine, j'ai rencontré la permanence et Jean-Pierre Guérard, et j'ai été absolument sidérée par cette expérience-là. Et je savais que je voulais revenir dans ce lieu plus longtemps pour essayer de mettre en forme ce que j'avais vu. Et pareil, c'est un film qui naît d'une colère, qui naît d'une indignation, qui naît d'une sidération de la souffrance et de ces hommes-là, et aussi du traitement de la migration. Moi, j'ai commencé à travailler le film bien avant ce qu'on appelait la crise des migrants, là, en septembre 2015, avec l'arrivée massive de migrants venant du Moyen-Orient. Mais il y avait déjà quand même ce qui m'interpellait, c'était la façon dans les traitements médiatiques, tu vois, il y avait quelque chose qui ne rendait pas compte de l'expérience singulière de chacun d'entre eux, en fait. C'était les migrants. Enfin, je me souviens de reportages que j'avais vus sur CNN ou sur LCP, enfin, de hordes d'Africains. Mais je dis le terme horde parce que réellement, c'est ça que donnait à voir les reportages qui traversaient la barrière de Melilla, qui essayaient de rejoindre Ceuta, et t'as l'impression des invasions barbares, en fait. Enfin, le mur, ces masses comme ça indifférenciées qui essayaient de rentrer en Europe, cette citadelle assiégée. Et même si ces images n'avaient pas du tout été tournées dans un but et dans une intention d'accusation, en fait, ce que ça racontait, c'est ça, c'est « Oh là là, ils nous assiègent, ils sont nombreux, ils vont nous... » Et moi, dans le cabinet de Jean-Pierre, les récits de ces mêmes faits, c'est-à-dire des... Enfin, c'était mais bouleversant, quoi. Les gens qui racontaient comment ils avaient... En affrontant les policiers marocains, essayaient de gravir cette barrière-là, comment ils avaient marché à pied jusqu'à Saint-Denis, enfin... Dans le froid, dans la nuit, enfin, il y avait quelque chose d'une épopée, mais que j'avais envie de rendre compte de l'héroïsme de ces hommes, de leur extrême dignité, et en même temps de leur souffrance. Et que, pareil, quand je disais que j'ai plus foi dans les discours politiques, je me dis que quand je regarde le visage de l'un de ces hommes, qui faisait face à Jean-Pierre, mais ça anesthésiait, ça annulait tous les discours politiques de faut-il ou ne faut-il pas accueillir la misère du monde. Enfin, ça la rendait totalement caduque, inopérante. Et moi, j'allais pas trier entre Mamadou Diallo, qui est lui prétendant au droit d'asile, à Joginder Singh, qui est un réfugié économique. C'est la même souffrance, c'est la même détresse, c'est la même douleur. Et quelque part, dire ça, mais à travers en filmant le visage de ces hommes, en racontant leur histoire, c'est aussi quelque part mettre en forme une colère, une indignation politique, mais quelque part, la dépasser et en faire une œuvre de cinéma. Ça part de la même... Oui, ça part de la même chose, en fait.
Et là, comment vous traitez aussi ? Il me semble que c'est vous qui faites l'image de cinéma.
Ouais, là, c'est moi, pour le coup.
Parce que vous en avez envie, parce que comme vous êtes un peu bloqué vous faites un espèce de huis clos dans un bureau, c'est plus simple d'être moins nombreux.
Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai commencé parce que à tourner, j'avais pas encore de production. J'avais pas de financement. J'avais pas encore les financements. Donc, avec une partie de l'héritage. De la vente de la maison familiale, je me suis acheté une caméra, une C100, et de manière à être un peu plus autonome. Parce qu'il y avait une urgence et une volonté pour moi de faire ce film à ce moment-là, qui était. C'est comme si la souffrance de ces hommes, elle disait aussi quelque chose de moi, elle disait que j'arrivais. Mais en tout cas, c'était une nécessité absolue que de faire ce film. J'étais complètement obsédée par ça. Et mon compagnon, lui, est chef opérateur, mais il bosse beaucoup plus dans le journalisme des grands reporters en Afrique. Mais il est quand même chef op. Et au départ, il est venu avec moi parce que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à percher. Et quand il a vu le cadre que j'ai fait, c'est-à-dire un cadre très frontal qui fait fi de tous les plans de coupe, qui fait fi de toute la rationalité du montage, c'est-à-dire que c'est des plans qui duraient 20 minutes, comme ça, des plans séquences, cadrés très serrés sur le visage. Il m'a dit, mais ça, c'est un plan de réal. Enfin, moi, je peux pas faire ça. Je veux dire, je pourrais jamais assumer de...
De pas découper, quoi.
De pas découper, de faire un... Tu vois, d'être aussi frontal. Enfin, et il m'a dit... Enfin, je sais pas, il m'a fait comprendre que même cette manière de filmer, c'était pas être chef-op, c'était être réal, en fait. Et qu'il y avait qu'un réal qui pouvait assumer ce plan et qui pouvait assumer au montage des plans de 25 minutes et tout ça. Il m'a dit, moi, je prendrais pas ce risque-là. J'ai pas du tout envie de... Donc, moi, je pense qu'il faut que tu tournes, etc. Moi, je peux être à côté de toi, mais il faut que tu tournes. Et moi, je tourne comme une brêle. J'ai jamais pris une... Enfin, je suis pas du tout technicienne. Je sais même pas comment on appuie sur un bouton. Enfin, j'étais pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Mais c'est vrai que l'exiguïté de la pièce, l'intimité de ce qu'il joue, la délicatesse, là. Je voyais pas comment on allait être trois, je voyais pas comment j'allais faire entrer quelqu'un qui ne faisait pas partie de cette histoire. Et même Clément, mon compagnon, même le chef, même qui prenait le son à lui-même, il faisait partie de cette histoire. C'est-à-dire que comme il est chef-op, enfin on a passé vraiment un an, enfin moi j'ai passé un an en écriture et avant de commencer à tourner, et presque un an, un peu plus d'un an en tournage. Et quelque part, et le médecin en convenait aussi, la caméra et le film a fait partie intégrante du dispositif de soins. Cette manière de regarder, ça fait partie de... C'est prendre soin aussi, de filmer quelqu'un. Et donc, on était complètement... on était intégrés au processus thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi, je voyais à la place où j'étais, que la psychiatre Evelyne ne voyait pas, que le médecin ne voyait pas. Donc, on intervenait aussi parfois, on se permettait d'intervenir sur des trucs parce qu'on se rappelait des gens. Enfin, on écoutait de façon hyper intense. Quand tu filmes, il y a une intensité de la situation qui fait que tu vois, là, tu vois, c'est la réalité augmentée, tu vois encore plus, quoi. C'est comme si tu avais des pouvoirs magiques. Et du coup, on se servait aussi de cette intensité de regard et de présence pour aiguiller des fois les médecins, etc. Et du coup, ce qui fait que les gens, nous, pour eux, c'était tout à fait normal qu'on soit là et qu'on faisait partie de ce qui se passait là. Et même si personne n'était capable de nommer ce qui était là, en tout cas, on faisait partie de ça. Et je l'ai vraiment mesuré quand, certaines fois, Clément partait en tournage et j'étais obligée d'être avec un ingénieur du son plus professionnel. Les gens ne voulaient pas être filmés ce jour-là. C'est-à-dire que tout le monde était là, tout le monde voyait la perche. Mais c'est qui? Alors que Clément, personne ne la voyait. C'était hallucinant, quoi. Quand Clément était là, personne ne voyait la perche, parce que c'était tout à fait normal. Il y avait quelque chose d'enveloppant qui était... Et quand il n'était pas là, la présence d'un autre faisait que le dispositif de tournage devenait quelque chose d'intrusif. Donc c'est vraiment... Enfin, moi, je ne pourrais absolument pas le théoriser. Pour moi, c'est de l'ordre quasiment du chamanisme. Enfin, il y a un truc qui est totalement irrationnel dans ce que je raconte, mais je sais que, voilà, c'était pas pareil. Il y avait quelque chose et donc, j'aurais jamais pu... ça s'est fait totalement instinctivement. Je me suis dit, c'est moi qui vais tourner avec Clément et ça va se faire. Lui, il n'est pas du tout ingénieur du son. Moi, je ne suis pas du tout cadreuse, mais ça ne peut pas se faire autrement que comme ça, en fait.
Ce film-là, sera comme les précédents, finalement. Il sera pour la télévision, pas pour le cinéma. Est-ce que, du coup, c'était... Alors, vous avez expliqué que vous l'avez démarré de manière un peu impulsive. Vous avez changé de production. Vous avez mis beaucoup de temps à écrire, puis beaucoup de temps à le tourner. Mais est-ce que, du coup, aussi, le choix de ne pas le faire pour le cinéma, parce qu'il me semble qu'il a été fait cette fois-ci pour la chaîne Arte, c'est un choix dès le départ de s'orienter côté télévision.
Ouais.
Et pourquoi?
Mais moi, en fait, bon, déjà, c'est très long, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas désinvestir le service public, hein, et la télévision. Je trouve que c'est hyper important qu'on occupe encore ces places-là, même si c'est réduit à la portion congrue. Je pense que quand on a une possibilité de faire passer quelque chose, il faut y aller, parce que, surtout pour un film, pour la permanence, qui a vraiment une dimension politique qui me paraissait... qui me paraissait nécessaire, quoi. L'espace de diffusion qu'offre la télévision, elle est hyper importante. Et c'est même pas qu'en termes de notoriété, c'est en termes de diffusion du message. Donc c'est beaucoup plus... moi, je vois la vie des films documentaires au cinéma, elle est aussi très problématisée, tu vois, elle est très problématique. Et en fait, la permanence, ce qui était bien, c'est qu'à la fois le film est passé à la télé, mais qu'en même temps, j'ai pu... il est sorti comme... Il n'est pas sorti en salle dans une sortie officielle, mais j'ai fait énormément de projections dans des cinémas à réessai avec un maillage d'associations, etc., qui fait que le film a beaucoup circulé. Et que je pense que c'est aussi un film qui peut pas laisser le spectacle... Qui peut pas être dans le flux... C'est un film qui nécessite de rassembler une parole après. C'est pas un film qu'on peut balancer comme ça dans un tuyau et on se barre, quoi. Mmh. Puis même à la télé, je veux dire, ça, c'est un film qui est fait pour le cinéma, même en termes de son, c'est un huis clos, mais le hors-champ sonore est extrêmement travaillé. Et donc, bien sûr, que ce qu'offre la salle, l'intensité de regard, d'émotion, de concentration qu'offre la salle de cinéma est sans pareil. Donc pour moi, c'est ce qui était très bien, c'est que j'ai pu... travailler les deux supports, en fait. Il est à la fois sorti, pas dans une sortie classique, mais j'ai énormément accompagné le film. D'ailleurs, je continue à le faire. Et en même temps, il y a cette possibilité d'exposition qu'offre la télévision. Donc, quand c'est possible, tant mieux. Après, voilà, moi, je sais pas, peut-être que j'ai pas encore eu... j'ai pas encore eu la... Penser cinéma, c'est aussi penser des formes pour le cinéma. Mmh. Tu vois, je me dis que voilà, le prochain film, je sais pas, c'est aussi penser une écriture qui soutient la salle, quoi.
Ce qui est toujours intéressant dans le documentaire, c'est le contrat qui est passé entre le filmeur et le filmé, entre le personnage et le réalisateur du film. Alors s'il y en a un, bien sûr, quel est le contrat qui est dans ce film-là, dans la permanence, quel contrat vous passez avec le médecin et dans cette permanence et avec ses patients? Quand je parle de contrat, je parle non pas de papier, mais de contrat moral, bien sûr, entre vous qui filmez et eux qui sont filmés. Est-ce que vous savez pourquoi il s'engage à faire le film? Qu'est-ce qui l'intéresse fondamentalement? Je parle toujours du médecin. Mais je parle du médecin, mais je parle aussi des patients, des gens qui viennent dans cette permanence. Est-ce que vous les aviez tous rencontrés avant? Est-ce que vous les découvrez aussi en les filmant? Quel est ce rapport de vous, réalisatrice, aux gens que vous filmez?
Mais cette question du contrat, elle est très intéressante, particulièrement dans ce film, parce que filmer à l'hôpital, ça a été extrêmement compliqué. Et de fait, le fait que le film soit été diffusé par Arte et l'hôpital, l'administration de l'hôpital, me demandaient un contrat signé de tous les participants du film. Un droit à l'image, quoi. Mmh. Mais finalement, donc ce contrat, je les ai signés. Mais ce qui est marrant, c'est que ce contrat signé ne dit rien de... finalement de la réelle adhésion et de comment le film a pu être possible et de finalement ce qui s'est échangé sans qu'on puisse le nommer entre moi et les gens que j'ai filmés et entre eux et entre moi et les patients et entre moi et les médecins. Et en fait on l'a formulé après, mais je sais pourquoi ils savaient pourquoi je faisais le film, je sais pourquoi ils ont accepté d'être filmés, mais on se l'est jamais dit de façon mais en fait et le film il peut pas supporter, enfin. Et en même temps, ça se voit dans le film. Je pense que ça se voit dans le film. Je veux dire, moi, je vois des films où le réalisateur est à une position de surplomb, à une position de prédateur, à une position de voyeurisme et de domination par rapport au film, par rapport aux gens qui filment. Ça se voit tout de suite. Et on peut pas. Et dans un film comme ça, avec une écriture si frontale, on est sur. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas passé, s'il y a un contrat qui n'est pas établi, ne serait-ce que moralement, mais. Ça se voit. Donc je pense que finalement ce contrat signé quelque part il avait été signé au moment où j'ai allumé une caméra et que les gens ont accepté de le faire. Donc il y a des gens, effectivement il y a des gens qui ils savaient très bien que j'étais, enfin ils me voyaient depuis 2 ans, enfin il y en a d'autres qui me voyaient depuis moins longtemps, mais avec qui je discutais soit avant les consultations, soit après, soit quelques jours après les avoir filmés en leur expliquant. Donc mais ils savaient tous et je pense pourquoi tout le monde, voilà. Mais ça, c'est très compliqué à expliquer, tu vois. C'est quelque chose qui se voit. Je veux dire, c'est quelqu'un qui attend que mon cadre soit fait, que le bouton rouge soit allumé pour pouvoir délivrer quelque chose qu'il n'avait pas dit avant. Tu vois, c'est quelqu'un qui joue avec la caméra pour pleurer, pour faire valoir son truc. C'est tellement de raisons, mais la volonté d'être regardé, la volonté de témoigner, la volonté de dire sa souffrance, de protéger ce lieu, de dire l'importance de ce qui se passe dans ce lieu. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons qui fait que ça a été possible. Et s'il n'y avait pas eu toutes ces raisons, ça n'aurait pas été possible. Bien ou sûr. En tout cas, même si ça aurait été possible, ça se serait vu que ça avait été à partir d'un rapt ou d'un viol ou d'un vol. Ou, tu vois, je pense que ça se voit, quoi.
Après la mort de Danton... Et la permanence, on pourrait croire du coup que vous pourriez être un peu fatigué ou même lassé de filmer cette forme de marge dont vous parliez. Et en fait, pas du tout, car vous terminez dans le même temps. Donc un nouveau film dont vous avez déjà un peu évoqué la fabrication, qui s'appelle Vers la tendresse. C'est une exploration intime du territoire masculin d'une cité de banlieue, En suivant l'errance d'une bande de jeunes hommes, nous arpentons un univers où les corps féminins ne sont plus que des silhouettes fantomatiques. Les déambulations des personnages nous mènent à l'intérieur de lieux quotidiens comme des salles de sport, des halls d'immeubles ou des parkings de centres commerciaux. Tandis qu'en off, on entend des récits intimes qui dévoilent leur histoire.
Peut-être enfant, ouais, parce que c'est là que tu sens bien la vie, tu vois, t'es à fond dedans. Une fois, mais c'est une fois l'amour, à ce qui paraît en plus. À partir de la cinquième, il n'y a plus vraiment de filles dans ma scolarité, tu vois. Après, en quatrième, j'ai choisi une option filière où c'était la quatrième technologie, tu te retrouves qu'avec des mecs, quoi. Il y avait deux filles et les filles, elles jouent au foot avec nous, tu vois. C'était pas trop des filles qui nous intéressaient, plus que ça. Ça, c'était une ambiance déjà un peu prison, tu vois. Après, à cet âge-là, tu calcules pas non plus trop les filles, tu vois. C'est après que ça vient, tu vois. Après, quand tu grandis dans une cité, t'as une certaine... Les filles, c'est d'un côté, on va dire. Tu vois, pour les mecs, c'est d'un côté, donc se mélanger pas par rapport à la génération de maintenant. On sortait pas, nous, avec des filles et tout. C'était pas dans notre quotidien. Parler de filles, c'était que pour parler en mal, tu vois. Des filles faciles, des trucs comme ça, quoi.
Donc c'est un film que vous semblez terminer, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, en même temps, ou à peu près dans les mêmes moments que La Permanence. Alors comment vous y prenez-vous là? Comment vous fabriquez en même temps ce film-là? Est-ce qu'en termes de fabrication, est-ce que ces choses-là sont en fait un peu entremêlées ou est-ce que vous arrivez à distinguer la fabrication de La Permanence de celui de Vers la tendresse? Il me semble que vous travaillez quand même avec des sociétés de production différentes, vous les fabriquez de manière très différente, aussi bien techniquement que cinématographiquement. Voilà, comment se passent ces deux fabrications un peu qui nous semblent de l'extérieur un peu fait en parallèle?
Oui, c'est totalement fait en parallèle, mais ça c'est un pur accident parce que en fait voilà, j'avais ces deux projets avec cette société de production avec qui ça s'est mal passé et donc j'ai quitté, donc j'ai continué à travailler sur la permanence pendant 3 ans. Et donc j'avais ces voix en fait que j'avais enregistrées avant et je voulais faire un film à partir de ces voix enregistrées, non pas pour en faire un film à la base, mais juste pour documenter des conversations que je voulais avoir avec ces garçons pour nourrir un potentiel probable film autour de l'amour dans les banlieues, mais raconté par les garçons. Et donc j'ai laissé de côté ces bandes et ces voix et ce désir de film pendant pas mal de temps. Et en fait, Steve Chenche, donc le personnage principal de la permanence, la mort de Danton, a joué dans un court-métrage produit par une société de production qui s'appelle Les Films du Warsaw, qui est une société de production de fiction, en fait. Et donc, lui, comme une carte de visite, il a beaucoup montré la mort de Danton à des producteurs, à des réalisateurs avec qui il voulait travailler, en fait. Et donc le Warsaw voit ce film, les producteurs du Warsaw voient ce film et disent « mais c'est génial, on a envie de rencontrer cette fille, il faut qu'elle fasse de la fiction, il y a quelque chose de la fiction dans ce film, il faut qu'elle fasse de la fiction ». Donc ils me contactent alors que moi je suis en train de travailler sur La Permanence et que voilà, j'ai ce projet-là. Ils me disent « voilà, on a envie de travailler avec vous, est-ce que vous avez un projet ?» Je dis « bah non, je n'ai pas vraiment de projet de fiction, moi le court-métrage... Comme ça, classique, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je suis plutôt une documentariste. Mais par contre, c'est vrai que j'ai ces voix. Et à mon avis, ces voix, je pense que la mise en scène de ces voix, elles vont... Voilà, je présume et je suppose que ça va m'emmener à travailler une forme un peu plus mise en scène que j'avais fait jusqu'à présent. Et donc, je leur fais écouter les voix. Ils sont complètement séduits par les voix. Et donc, ils acceptent de le produire sans trop savoir... voilà, ce que j'allais faire, comment, parce que moi, ça bouleverse ma manière de travailler, ça bouleverse complètement leur manière de travailler habituelle, et ma manière d'écrire ce film bouleverse ma manière de travailler habituellement. Donc c'était, tout était totalement dans l'inconnu, tout était nouveau, de la fiction, du doc, enfin tout était complètement... le film s'est vraiment inventé lui-même, quoi. Mais à mon avis, je pense que tous les films se font de la même manière. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun film qui se produit et qui s'écrit de la même façon, quoi.
Avec la permanence et vers l'intendance, on a eu le sentiment de voir ces films un peu partout, dans les festivals, dans des débats, vous remportez ensuite même le César du meilleur court-métrage pour le film dont on vient de parler qui s'appelle Vers la tendresse. Alors comment vous vivez cette période de, que j'imagine de grandes sollicitations, comment ça, ça empiète sur votre travail en fait, tout simplement, quoi.
Ah ben, pour vous dire la vérité, je sors à peine d'un burn-out total, c'est-à-dire que j'ai eu à la rentrée là, une période de crash psychique où je ne pouvais plus rien faire, plus envisager même l'idée de que j'allais refaire un deuxième film, hein, que j'allais faire un nouveau film, tellement j'étais, je pense que c'était trop. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai, entre le César, effectivement les sollicitations, les projections des deux films, j'ai tourné énormément, moi, à l'étranger avec La Permanence, énormément en France avec Vers la tendresse. J'ai passé un an à accompagner mes films partout et je suis arrivée rincée, rompue, esselée, déprimée, ravagé, vaincu, quoi. Donc là, je m'en sors à peine, mais c'est difficile. Enfin, voilà, je sais que... Enfin, j'ai besoin de retrouver quelque chose du désir, en fait, de faire les choses pour les bonnes raisons et pas parce que, ah, ça y est, maintenant, t'as eu le César, donc c'est maintenant ou jamais, comme je peux l'entendre d'un côté. En même temps, voilà, je... Et tout s'est reconfiguré, tout s'est un peu remis en place. Et la seule chose que j'ai envie de retrouver, c'est le désir de faire les choses pour des raisons qui me sont propres et pas pour des raisons extérieures, bonnes ou mauvaises. Mmh. Et là, je crois que après 3 mois où j'ai rien fait quasiment, je commence un peu à sortir de ça, mais je me ménage beaucoup parce que je sens que j'ai été totalement saturée, quoi. Et presque, j'ai vraiment perdu le désir de faire des films. Ça, c'est flippant parce que il n'y a rien de plus essentiel. Hein. Notre matière première, c'est notre désir. Et quand le désir n'est plus là, parce que il a été étouffé par diverses raisons, c'est très fragile, c'est très angoissant. J'étais très angoissée, moi, ces derniers mois, de ça, de cette perte soudaine et brutale du désir, quoi.
Mais qu'est-ce qui a écrasé le désir? C'est quoi cette machine un peu infernale à aller devoir, de manière hyper répétitive, présenter les films?
Je pense que c'est ça, c'est la peur de... C'est tout d'un coup, c'est cette illusion de porte ouverte, en tout cas dans la fiction, mais qui pour des mauvaises raisons, enfin, à la fois j'ai été contactée, sollicitée par des gens vraiment que j'aurais jamais imaginé rencontrer il y a ne serait-ce que 10 ans, et en même temps c'est hyper angoissant parce que tout d'un coup j'ai l'impression que mon désir ne m'appartient plus mais qu'il appartient plus aux autres. Et donc cette perte de désir, je pense que c'est pour remettre le compteur à zéro et pour me forcer à me repositionner, quoi, me dire mais en fait qu'est-ce que tu veux faire, tu veux faire ça pour quelle raison, enfin je pense que c'est m'obliger à redevenir maîtresse de mon propre désir et plus être un objet de consommation. Enfin, moi j'ai l'impression d'être un objet de consommation, quoi. J'étais hyper sollicitée même par la presse pour plein de dans des colloques, enfin dans plein de trucs, et en fait je me dis cette nécessité de se recentrer et de se réappartenir, en fait. Je sais pas si je réponds à la question.
Si, complètement.
C'est vrai, je sais pas comment les autres le vivent parce que personne n'en parle. Moi, je me suis sentie aussi très seule. Je n'osais pas du tout en parler parce que c'est très.
Ça peut paraître fou parce que de l'extérieur, on se dit elle est très entourée parce qu'elle est tout le temps en mouvement, en projection et tout. Et en fait, non, c'est quelque chose de très solitaire, quoi. On n'a pas encore parlé de montage, mais il semble que vos films sont pour le coup des vrais films de montage. Où vous y trouvez leur structure, leur souffle, leur narration. Il me semble que vous travaillez quand même régulièrement avec la même monteuse. Alors pourquoi? Et puis est-ce que pour vous c'est important cette fidélité?
Ah bah oui, pour moi, vraiment, plus j'avance, plus je me dis que Amrita, elle est, c'est la co-auteure de mes films, et c'est en tout cas, il y a quelque chose de très fort, c'est que je lui amène une matière. C'est marrant parce qu'elle n'intervient pas, en tout cas dans les documentaires, elle intervient très peu avant. À l'écriture, j'en parle très peu. Mon tournage, je raconte vite fait, mais pas tant que ça finalement. Et en fait, on construit vraiment, elle m'aide à construire, elle m'apporte toute sa puissance de, construction dramatique, dramaturgique au montage, en même temps une intelligence humaine, une intelligence politique très forte qui détermine le choix des situations, les choix des séquences. Mmh. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est pas qu'une, c'est, bon, bien sûr, c'est pas du tout qu'une technicienne, mais c'est une technicienne de la dramaturgie. C'est aussi quelqu'un qui a un sens de l'humanité qui est d'autant plus puissant qu'il est très sensible et intuitif. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans les discours, qui est dans la parole, qui est dans la théorisation. Elle est extrêmement instinctive. Mmh. Et donc, je me retrouve, en fait, j'ai ce même instinct avec elle, quoi. Moi, je veux plus formuler qu'elle, mais on se retrouve profondément sur la manière dont on pense le monde, la manière dont on voit le monde, la manière dont on le vit. Donc, je ne peux pas envisager aujourd'hui de travailler avec quelqu'un d'autre. Et à tel point que, effectivement, dans un désir que j'ai eu de faire de la fiction, je voulais pas écrire avec un scénariste professionnel. Et pour moi, c'était tout à fait naturel de, là, parce qu'il s'agissait d'une fiction, à partir d'une expérience documentaire que j'ai vécue, j'avais envie qu'elle écrive avec moi dès le départ. Et alors qu'elle, enfin, elle n'a pas écrit elle avait jamais écrit de fiction, mais je sens chez elle ce désir, en tout cas, de travailler avec cette matière-là. Et ça se passe très bien, même si on en est qu'au début. Hein, mais je pense qu'on peut aller au bout de cette expérience-là. Et c'est vrai que Robin Campillo, par exemple, c'est un monteur, mais qui a écrit aussi, qui a commencé comme monteur et qui écrit bien avec Laurent Cantet. Donc, tu vois, tous ces couples, ces binômes-là, réalisateur-monteur, m'ont vachement rassuré dans l'idée que c'était quelque chose, effectivement, qui n'était pas si commun, mais qui pouvait totalement se comprendre, se défendre.
Ouais, et... bon, ça peut être aussi votre modèle, tout simplement, quoi. Ça peut être ouais. Dans le cadre de ces entretiens, on a reçu le réalisateur François Caillat qui définissait le réalisateur de documentaire, non pas comme un métier, mais je le cite, comme une expression possible à des états qui sont les miens. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est qu'il voit le cinéaste comme une place, pas vraiment comme un métier, mais plutôt comme une position d'observateur et de fabricant. Que le documentariste se place à un endroit d'où il observe le monde. Et c'est cet aspect-là dont j'aimerais qu'on discute un petit peu. Quoi. Comment vous définissez votre rapport à ce métier ?
Bah c'est, moi, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que c'est faire quelque chose de ma présence au monde. C'est effectivement, et je suis tout à fait d'accord, le regarder de cette place-là, de cette place de la marche, de cette place de la banlieue, de cette place de la femme, de cette place de la noire, de cette place de l'enfant d'immigré, enfin, de toutes ces places-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la réduire à une seule. Mais c'est de toutes ces places-là que j'ai envie de faire du cinéma et que j'ai envie de raconter et quelque chose voilà, de la société dans laquelle j'évolue. Et je pense que ce qui m'importe, moi, dans les cinéastes, c'est que c'est cette multitude de subjectivités, cette multitude de singularités qui permettent de dessiner la complexité du monde. Enfin, j'ai vu le film de Wang Bing, Madame Fang, mais j'étais époustouflée, quoi. Je me dis, mais j'ai besoin de lui pour comprendre la société chinoise aujourd'hui, contemporaine. Il y a quelque chose... Moi, les cinéastes me sont précieux pour ça, pour m'aider à lire le monde, en fait. Mmh. Et c'est pas un, c'est tous, quoi. C'est chacun à notre place, en fait. Et c'est chacun de notre place, de nos points de vue, qu'on va... je pense que ce qui nous tue et ce qui nous manque le plus et ce qui nous détruit, c'est la binarité, c'est la médiocrité, c'est l'appauvrissement de l'intelligence. Mmh. Et j'ai l'impression que les nouvelles que nous envoient les cinéastes par leurs films... sont une manière de résister à cet appauvrissement, à cette médiocrité-là. Quand je vois le film de Wiseman, 3h30, pour moi, c'est un chef-d'œuvre magistral. C'est le film. Enfin, vraiment, j'étais tellement contente de le retrouver dans ce film, alors que Wiseman, ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi marquée par un de ses films. Je me dis, l'Amérique va s'en sortir. Enfin, il y a quelque chose, même plus que l'Amérique, on va s'en sortir. Il y a quelque chose qu'il faut. Enfin, c'est un outil de résistance et c'est quelque chose qui m'a vraiment galvanisé, moi. Le film de Wiseman, dans tout, en tant que cinéaste, dans son intelligence, dans sa construction, dans le montage, dans ce qui est dit, dans tout ce qui m'apprend, dans tout ce qui nous apprend, dans tout ce que je vois. Enfin, je me dis que, ouais, c'est heureux, quoi. C'est ça qui me donne encore un peu d'espoir et envie de résister, de retourner au front, quoi. C'est de me dire qu'on n'est pas seul, tu vois, à cette place-là.
J'ai trouvé cette citation qui provient d'un entretien que vous aviez donné à la SCAM, dans lequel vous disiez « Nous, les documentaristes, dans les tourments que nous traversons, nous sommes une arme politique extrêmement puissante parce que nous sommes en contact direct avec le réel. » Alors j'aimerais qu'on parle... de cet autre aspect de votre travail, de la manière dont vous le pensez comme une arme politique. Est-ce qu'il doit être revendiqué à ce point-là comme une arme politique? Enfin, okay. Voilà, c'est un peu ça la question, quoi.
Bah, je pense pas qu'il doit être il l'est ou pas. Je pense pas qu'il doit être revendiqué. C'est-à-dire que, est-ce que c'est politique d'être ému? Est-ce que ça fait de la permanence une arme politique d'avoir des spectateurs qui sont émus par le visage de ces migrants? Sans doute. Je pense pas que les films et le cinéma changent le monde. Et je pense pas, en tout cas, que mes films ne changent le monde. Ça, c'est sûr. Je pense qu'aucun film n'a jamais changé le monde. Mais je pense que les films changent les spectateurs. Et que c'est là où quelque chose est mis en mouvement et c'est là où quelque chose c'est là où ça peut devenir une arme politique, c'est pas à moi de le dire, c'est aux gens de le ressentir ou pas, en fait. C'est plus mais en tout cas cette idée de complexifier le réel et d'éviter la binarité, d'éviter les stéréotypes, d'éviter l'écueil, de permettre de comprendre une société. Aujourd'hui moi j'ai l'impression que je suis agressée, mais même à la radio. Même, alors que moi j'écoute pas la télé, j'ai pas la télé, j'ai depuis très longtemps, mais même la radio, je suis agressée par le niveau de l'affaiblissement de la pensée, le niveau du débat politique. Enfin, je veux dire, c'est tellement consternant. Je me dis, mais où est Bourdieu? Mais où sont les grands penseurs, les grands intellectuels qui nous élèvent? Où est Foucault? Enfin, je me dis que cette scène médiatique est devenue une telle société du spectacle pathétique qui, à mon sens, ne produit plus de pensée. Enfin, après, il y a des endroits de résistance, comme certaines émissions de France Culture, sans doute. Mais la pensée, elle est tellement plus produite là, en fait, cet avènement des réseaux sociaux, de cette indignation comme ça, en 148, je suis tellement triste de ça, en fait, c'est comment le spectacle, comment l'épiderme, comment la pulsion a pris le pas d'une pensée construite et apaisée et travaillée. Il reste peu d'espace, quoi, et que je pense que le cinéma est un espace encore qui permet de produire de la pensée, quoi.
De la complexité, oui, bien sûr. Merci Alice Diop.
Merci beaucoup.